petitesse et notre néant et notre faiblesse, plus que nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien. Comme le Seigneur Jésus dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça nous pousse à la prière. Cette question-ci est l'exemple de la répréhension douce. Pourquoi la réunion a-t-elle repris plus tôt? Je crois que si je veux répondre positivement, c'est que parce que nos cœurs étaient brûlants de commencer la réunion. Deuxièmement, parce que mon cœur était peut-être trop chargé avec beaucoup de sujets et je voyais que le temps est très court. Si j'ai blessé quelqu'un, ainsi je m'excuse. Par rapport à un sujet abordé samedi, vous avez dit que de dire si vous n'êtes pas à la table du Seigneur, vous êtes à la table des démons, est un non-sens. Je suis d'accord, mais comment l'expliquer à ceux qui ne partagent pas cet avis, avec en plus de passages de la Bible? Tout d'abord, je veux dire que je ne connais aucun passage dans la parole de Dieu qui justifierait le contraire de ce que j'ai dit, qui justifierait de dire que si ce n'est pas la table du Seigneur, c'est donc la table des démons. Je n'en connais pas. S'il y a quelqu'un qui en connaît, pourra me les montrer. Donc, je crois que nous devons tenir compte du fait qu'il y a le principe fondamental expliqué aussi en 1 Corinthiens 10, à savoir qu'il y a la table du Seigneur et il y a ce qui provoque notre Seigneur à la jalousie. Et cela, cette deuxième catégorie à Corinthe, était composé exclusivement de la table, des diverses tables de divers démons, peut-on dire, de diverses idoles. Mais de dire que comme c'était le cas pratique à Corinthe, c'est donc aussi le cas chez nous, c'est du non-sens. Si je reste un peu proche de chez nous, alors je suis pour ma part convaincu que d'ajouter aux critères bibliques et de devenir plus strict que ce que la parole de Dieu nous dit, par principe et conviction, ce n'est plus la table du Seigneur. Mais je ne peux pas dire que de tels frères se réunissent à la table des démons. Et de principe seulement presser l'idée que nous sommes donc membres de la famille de Dieu et chaque membre doit tout de suite donc pouvoir prendre sa place à la table du Seigneur, alors ça non plus, pour moi, ça ne correspond pas à ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. Il y a des critères à remplir. Si un rassemblement, un groupe de croyants est donc plus large, je ne peux me joindre à eux, plus large que ce que la parole de Dieu dit. Néanmoins, ils ne sont pas à la table des démons. Je ne vois aucune preuve pour cela. Et même beaucoup d'autres milieux évangéliques, même là où il y a parfois les fausses doctrines, comme l'incertitude du salut prêché, comme si c'est correct, ainsi de suite, je dois quand même dire que c'est des tables érigées par des hommes, oui. Des principes de communion non pas conformes à la parole, oui. Je ne peux me joindre à eux, oui. Ce n'est pas des tables des démons. Le simple fait de tirer par-ci et par-là un verset de l'Ancien Testament pour justifier, par exemple, avec un verset sur Baal, pour dire qu'alors, je ne sais pas quelle dénomination évangélique a une table de Baal, c'est du non-sens pour moi. Ça, ce n'est pas l'interprétation de la parole, c'est tordre les Écritures pour avoir raison. Donc, comme la personne qui a écrit cette question est d'accord, heureusement, je crois que nous sommes d'accord avec la parole et pas avec ce que je vois là-dedans. Mais si d'autres ont d'autres convictions dans divers milieux, je crois qu'ils se trompent. C'est tout ce que je peux dire. Comment aller parler à un frère qui parle et n'édifie pas l'assemblée sans le blesser? Je crois, premier point, si on a déjà dans l'assemblée locale, parmi les amis, localement parlant, de bonnes relations fraternelles, qu'on est déjà habitué à se parler franchement sur beaucoup de sujets, la relation devrait pouvoir supporter aussi des critiques. La question est comment les apporter. Mais le fait de nous aimer entre frères et sœurs n'est pas contredit par le fait de se reprendre, se corriger, de s'équilibrer, se donner du contrepoids. Si l'amour, par exemple, dans la vie conjugale était manifesté de la part de ma femme en ce qu'elle me donne raison en tout, je peux vous dire que je serais déjà très loin dans plusieurs domaines. Son amour l'a aussi poussé à me corriger là où besoin existait. Je peux vous rassurer, j'en ai besoin. Et malheureusement, la plupart des hommes a aussi fortement besoin d'être corrigé et équilibré. Si par contre vous ne vous parlez jamais et un frère dérape souvent pendant la réunion d'édification, là ça devient compliqué. Peut-être tu peux surtout prier pour lui, mais si tu n'as jamais entretenu une relation avec lui, c'est très difficile d'aller le voir pour parler d'un sujet délicat, parce que vous n'avez dans votre communion entre les deux presque pas de base. Et ça s'apprend. Nous avons chez nous un frère, je peux le dire franchement ici, il ne comprend rien du français, même s'il y a les enregistrements. Donc, qui a une tendance assez, je peux le dire ainsi, légaliste, et il voit toujours les choses de façon un peu sombre, négative, pessimiste. Bon, moi aussi j'ai mes humeurs, mais pour lui c'est un peu systématique. Eh bien, à un moment donné, nous avons aussi appris non seulement à nous aimer, mais à nous apprécier. On a vu qu'on a aussi besoin d'un tel pour parfois nous ramener, lorsqu'on est peut-être un peu trop volant, pour nous ramener les pieds à terre, pour ne pas avoir trop de rêves. Bon, on a besoin les uns des autres, mais à un moment donné, pendant une réunion d'administration, quand il parle trop de cette façon négative, on dit « Attends, c'est ton appréciation, mais ce n'est pas la nôtre. » Et il ne faut pas aller trop loin, tu vois la chose de façon trop pessimiste. Et parce qu'on a déjà aussi eu à se parler positivement, s'encourager, lutter ensemble dans certaines difficultés, ainsi de suite, ça va. On s'entraide. Commence donc à entretenir les relations avec les frères et sœurs, et cela de façon réciproque. Et ne le faites pas de la façon que j'ai cité le samedi, sans vouloir être comme un frère de Douala, dit toujours attaquatoire, c'est un nouveau mot français, me dit-on. Mais de toute façon, ne pas non plus tourner autour de l'affaire. Si tu penses que réellement le frère ne sait pas après combien de minutes il doit dire Amen, peut-être tu peux une fois lui dire que c'est bon de le dire quand vous avez fini votre pensée. Au lieu de recommencer la pensée une deuxième fois parce que vous n'avez pas trouvé le mot Amen. Alors, il y en a comme ça, et il faut leur venir en aide. Il y a des frères qui parlent 30 minutes, et c'est le bon moment pour s'asseoir. Mais ils ne savent pas comment s'asseoir, donc ils continuent. Et les 15 minutes qui suivent, ça endort l'assemblée, ça frustre les uns et les autres, et ça enlève la possibilité à un deuxième, parfois troisième frère, d'encore ajouter quelque chose pour compléter, pour ainsi dire, l'image soit, oui, vraiment complète et équilibrée. Et parfois, un frère parle beaucoup dans la doctrine, ou d'une façon très sèche, et si un autre frère ajoute 5 minutes, 10 minutes, quelque chose, ça peut devenir beaucoup plus compréhensible pour les jeunes, pour les sœurs, pour certains. J'ai toujours apprécié, quand on a commencé les réunions dans certaines localités au Cameroun, que les frères, dès le début, ont dit « pour que ça marche bien ». Nous devons avoir la franchise entre nous pour qu'il n'y ait pas de mauvais rythme qui s'installe dès les débuts. Juste un exemple, nous sommes partis en 2006 au nord du Cameroun. L'assemblée la plus proche par la route, c'était à 1200 km. Nous sommes partis seuls en couple, contents que le Seigneur va œuvrer, ce qu'il a aussi fait. Deux frères originaires du nord, mais comme incrédules partis sur la capitale du Cameroun, se sont convertis donc à la capitale et à un mois, voire trois mois après notre arrivée au nord, ils sont aussi partis au nord. Et on a pu commencer des réunions ensemble. Bon, ils étaient très jeunes dans la foi. L'un était jeune célibataire, l'autre était jeune juste marié. Jeune dans la foi. Ça aurait été très facile pour moi de devenir le pasteur de cette congrégation. Et quand on a donc, même avant de commencer la fraction du pain, on a eu le culte. Et pendant la petite pause sanitaire qu'on avait entre les deux réunions, je me suis tourné vers les deux frères pour dire, écoute, pour être très clair, aujourd'hui ce n'est pas moi. Et ce n'est pas expressément, je ne l'ai pas dit le lundi ou le mardi ou le samedi, mais le dimanche matin. Quand je suis revenu et j'en ai parlé à un frère âgé aux Pays-Bas, il m'a dit, mais comment tu peux savoir? Si tu dis d'avance que ce n'est pas à toi, tu bloques la direction du Saint-Esprit. Moi, je dis non. Je bloque, je verrouille la porte vers le fait de devenir, dans la pratique, le pasteur. Il faut que tout le monde s'exerce. Et tu as vu, surtout les premières fois, quand je disais ça, et 2 minutes après, la réunion d'édification commence, et tu es jeune croyant, 20 ans, 21 ans, converti il y a 3 mois, il y a 6 mois, tu as un défi devant toi. Mais voilà. Voilà, je vois déjà que quelques-uns reçoivent les encouragements. Voilà. Et maintenant, je suis resté bouche bée jusqu'à ce que l'un ou l'autre ait le courage de se lever. Mais à la fin, parfois, j'ai pu ajouter quelque chose. Mais il faut être non seulement spirituel, mais aussi réaliste là-dedans. Si nous voulons que tout le monde s'exerce, il faut laisser la place à autrui. Si nous savons, nous avons eu parfois des études dans un certain pays, et on avait dit que, par exemple, il y a le désir de l'assemblée locale, c'est que peut-être 2 ou 3 frères parlent, et qu'on a environ 50 minutes. Premier frère se lève, parle 47 minutes. Le signal est clair. Il est autosuffisant. Il a tous les dons. À tous les autres dizaines de frères qui étaient là présents, en total, il donne 3 minutes. Ce n'est pas spirituel. Même si peut-être les choses qu'il a dites sont très vraies. Nous devons être réalistes dans ces domaines. Nous devons aussi comprendre que notre comportement a un impact direct sur l'assemblée. Par exemple, si je veux encore revenir sur la prière, d'un côté, j'ai toujours été très heureux d'être présent dans une réunion de culte où il y avait des frères âgés qui c'était remarquable comment ils étaient versés dans les Écritures, mais aussi comment ils étaient réellement des sacrificateurs. Et je me suis réjoui de leurs actions de grâce, de leur prière d'adoration. J'en ai appris beaucoup pour ma part. Mais d'autre part, nous devons comprendre que quelqu'un de 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ne peut pas copier le comportement, le vocabulaire, etc. du frère de 80 ans. Nous avons eu un jeune converti chez nous, dans le rassemblement local. Mon beau-père est un frère qui a un vocabulaire néerlandais extraordinaire et poétique, et c'est impressionnant. C'est typique pour lui, tout le monde le sait, et il ne le fait pas exprès, mais il a un vocabulaire aussi très profond. Ce jeune, qui était chez nous dans l'assemblée, à peine converti, commence à dire des prières dans l'assemblée, chez nous, où pour moi c'était dès la première phrase claire qu'il essaye de photocopier le vocabulaire, le syntaxe de mon beau-père. Le problème étant que ce frère même était alloctone. Donc, il a utilisé des mots qui, environ en 1920, sont morts dans notre langue. Et même pour mon beau-père, c'est naturel. Pour lui, ce n'est pas naturel. Tu n'as pas besoin comme jeune frère. Et même quand tu as 60 ans et tu n'es pas tellement littéraire, tu n'as pas besoin de faire une longue prière poétique. Ça, c'est dire les prières. Mais prier, c'est simplement parler de son cœur. Et tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit, ni Darwin, ni Kelly, ni Rossier, ni Paul Finet, ou je ne sais pas qui, et Fusier. Mais tout simplement, toi, tu peux prier comme tu es. Pas de façon banale, ni poétique, ni faire un sermon. Prier, ce n'est pas dire des prières. Et gardons cela en tête. Comme aussi édifier, ce n'est pas réciter ce que tu as appris par cœur. Nous avions quelque part en Afrique, dans un certain pays, un frère versé dans les Écritures et dans les écrits des frères. Et le résultat étant qu'à la réunion d'études, quand on était dans un certain livre, on pouvait constater qu'il avait appris le commentaire du frère Rossier à ce sujet. Le problème étant que le vocabulaire dans le commentaire du frère Rossier n'est ni camerounais, ni de nos jours, mais d'il y a un siècle. Ce n'est pas grave, je m'en réjouis. Le problème, c'est seulement que si un frère qui n'a pas grandi dans le français commence à citer du français d'il y a un siècle, on constate après deux phrases que ce frère lui-même il ne comprend pas du tout ce qu'il est en train de vouloir expliquer. Et toute l'assemblée s'en rendait compte et je lui ai dit que s'il te plaît, la prochaine fois que tu te prépares, prépare-toi. Ton cœur. N'apprends pas les commentaires des frères par cœur, parce que ça n'édifie en rien. Donc, nous devons être naturels dans les choses. Est-ce que je méprise ces commentaires? Pas du tout. Mais il faut que tu comprennes d'abord ce que tu as lu, et que tu digères cela, et que tu t'en réjouisses toi-même pour avoir aussi quelque chose à partager. Il y a une sœur qui ne m'a pas donné une question, mais qui a pris l'occasion pour dire merci, et je vous remercie de m'avoir encouragé grandement par votre petite lettre anonyme. Au sujet des frères et sœurs célibataires, c'est la dernière question actuellement, il existe plusieurs cas où une sœur qui reçoit une demande de mariage n'a pas donné de réponse positive. Avez-vous des conseils ou exhortation pour aider les jeunes frères et les jeunes sœurs s'engager pour un mariage heureux à la gloire du Seigneur? Premier conseil, ne sois pas focusé sur le mariage, mais sur le Seigneur. Quand on vit avec le Seigneur, beaucoup de choses deviennent claires. Juste, je ne suis pas du tout modèle, mais pour moi, en ce qui concernait le fait d'abandonner mon travail de professeur et d'aller à plein temps à l'œuvre, j'avais d'énormes combats et je m'en suis occupé pendant plusieurs mois, après déjà des années d'exercice, mais de plus en plus intense. Et je constatais que je n'avance en rien. Je me rappelle encore une certaine vacance de Noël où je suis allé à genoux et j'ai dit que Seigneur, une fois maintenant, je te remets cette question du service. Je ne veux plus m'en occuper parce que j'en suis fatigué. Et maintenant, quand je vais encore lire ta parole, je veux seulement te voir. Alors, là où j'avais combattu dans mon fort intérieur pendant des mois, je peux vous dire que le lendemain aussi, j'ai lu la parole, je me suis réjoui du Seigneur, j'ai continué comme ça. Ça n'a pas fait deux jours que par la parole, alors que je ne voulais plus m'en occuper et je ne m'en occupais même plus, j'ai eu une certitude absolue. Je crois que si de jour en jour tu pries, Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est elle, sœur, est-ce que c'est elle. Mais finalement, tu te troubles même sur le plan émotif, psychique, et tu n'avances en rien. Remets la chose au Seigneur et vis avec lui. Mais ne reste pas avec les yeux fermés. Reste dépendant de lui. La communion avec le Seigneur, pour les frères comme pour les sœurs célibataires, est très importante. Ça aussi va aider à discerner si un mariage avec tel ou tel, tel frère, telle sœur, pourrait être dans le Seigneur. Le mariage dans le Seigneur est beaucoup plus que le mariage avec un croyant ou une croyante. Dans le Seigneur, ça veut vraiment dire que tu es dans ses pensées, dans sa communion, et tu discernes que c'est vraiment elle. Je te déconseille de faire comme ce qui est l'habitude dans le monde. Plus que tu es convaincu que c'est elle, plus que tu t'approches d'elle. Pour la simple raison que plus que tu t'approches d'elle, plus que tu vas troubler tes émotions et troubler ta vision claire, si je peux le dire ainsi, par tes émotions. J'ai déjà eu beaucoup d'entretiens avec des jeunes frères qui était absolument sûr que c'est le Seigneur qui a montré que c'est elle, et puis telle a marié un autre. Nous avons dans notre rassemblement un frère qui a perdu des années parce qu'il était absolument convaincu que c'est elle. Elle se marie. Finalement, un jour, j'ai dû lui demander, mais qu'est-ce que tu pries donc? Il dit que je suis convaincu que c'est elle. Mais j'ai dit que tu pries pour que son mari meure ou quoi? Pour qu'elle soit de nouveau libre? Écoute, nous pouvons tous nous tromper. Et il ne faut pas cramponner ou quoi à l'une ou l'autre personne, mais au Seigneur. et il va guider. Vis près du Seigneur pour que tes choix de jour en jour soient dans le Seigneur et il va quand même, je suis convaincu, aplanir le chemin. Mais si tu as déjà une conviction, ne continue pas à tourner autour de l'affaire. Je ne sais pas combien de mois et d'années. C'est aussi une perte, au moins pour les deux, pour toi et pour elle. Ne t'obstine pas, mais sois, je veux dire, dans ton choix. Je connais un frère allemand qui a beaucoup à faire avec les problèmes conjugaux et tout ça, et qui a dit que depuis un certain temps, il ne dit plus jamais qu'il y a un seul frère que le Seigneur a destiné pour une seule sœur, vice-versa. Pour la simple raison que le résultat est que certains alors s'obstinent dans leur décision d'il y a 10 ans que c'est elle. Et attendre peut-être jusqu'à ce qu'à l'âge de 70 ans, elle soit veuve ou je ne sais pas quoi. Je ne crois pas que c'est le chemin du Seigneur, généralement parlant. Bon, le mariage n'étant le sujet pour aujourd'hui, je dois m'arrêter là, je m'en excuse. Nous allons continuer dans le PowerPoint, ce qu'on avait vu le matin, sur le sujet de l'adoration. Ici, je n'ai cité que le verset 23. C'est intéressant de voir, l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Maintenant, le verset 24 dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est intéressant de voir, le Père cherche des adorateurs et les vrais adorateurs adoreront le Père, ainsi de suite. Ça, c'est une description de ce qui allait venir. Quand par contre, parce que le Père, c'est notre lien très intime avec Dieu, c'est cette relation que nous avons avec lui comme enfant. Maintenant, le verset 24 ne nous parle pas du Père, mais de Dieu. Et là, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Là, dans le verset 24, nous ne voyons pas les enfants qui s'approchent en adoration du Père, mais les sacrificateurs qui s'approchent de Dieu et Dieu prescrit. Il dit que cela ne m'est pas égal et indifférent comment vous le faites. Si vous voulez m'adorer, il faut que ce soit en esprit, en vérité. Ce n'est pas le sujet, le verset 24 n'est pas le sujet, mais je voulais quand même tirer l'attention que ce verset se trouve dans tout un contexte impressionnant. Déjà, Jean 3 et 4, c'est pour moi l'un des exemples les plus beaux dans la parole de Dieu, que la sagesse divine dépasse la nôtre. Parce que regarde le professeur de théologie, le plus grand rabbi en Israël, Nicodème, il vient chez le Seigneur Jésus. Avec une petite flatterie, parce qu'il dit que « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu. » Et le Seigneur dit alors que « Ah, voilà encore un grand rabbi. » Et il dit « Merci beaucoup, pas du tout. » Alors que cet homme impressionnant, de qualité morale aussi impressionnante, vient le voir. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ? « Il te faut naître de nouveau. » Bref, ta vie ne vaut rien du tout. Tu penses être quelque chose, ça ne vaut rien. Le chapitre après, une femme qui ne vaut rien, une prostituée vient, et nous allions dire que voilà maintenant la personne par excellence à laquelle il faut dire qu'il te faut naître de nouveau. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ? L'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Mais quelle sagesse divine ! Parce que si le Seigneur Jésus avait seulement dit à la prostituée qu'il te faut naître de nouveau, nous aurions dit que nous sommes mieux, quand même meilleurs que cette femme prostituée, donc ça ne nous regarde pas. Par contre, si la meilleure catégorie imaginable du peuple terrestre de Dieu doit naître de nouveau, combien plus moi ? Et par contre, si la pire des créatures qui existait, parce que c'était une Samaritaine et encore prostituée, peut devenir adorateur, alors personne de nous n'est exclu. Personne de nous n'est exclu pour devoir naître de nouveau, et personne de nous n'est exclu pour pouvoir adorer le Père en esprit, en vérité. C'est une grâce divine de l'avoir mis dans ces deux chapitres, de sa façon. Et, pardon, ça c'est Siri. Donc, nous allons un peu nous attarder sur ce verset, sur ces expressions, l'adoration en esprit et en vérité. J'aime souvent commencer avec cette expression « en vérité ». L'adoration en vérité veut sans aucun doute dire que c'est l'adoration en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe comment que nous pouvons adorer, pas à n'importe quel endroit. Si je prends le langage de l'Ancien Testament, le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire habiter son nom. Alors, mais il y a une deuxième signification. Le psaume 51 dit, je ne sais pas en français, mais ça dit en irlandais, « Tu cherches la vérité à l'homme intérieur, oui, au fond du cœur même, pas seulement quelque part en haut, mais au fond du cœur, jusqu'au fond de mon fort intérieur. Il faut que ce soit la vérité. » Et là, c'est maintenant une question qui se pose. Parce que nous pouvons avoir un beau recueil comme ça. Et pourtant, il y a même des cantiques d'adoration dedans. Et je peux les chanter. Je ne suis pas en train d'adorer. Je suis en train de chanter un cantique d'adoration. Il y a encore une différence là. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est un état de cœur impressionné par la grandeur de Dieu, par la grandeur du Fils de Dieu. Et n'est-ce pas, peut-être, probablement, certainement même, vous êtes plus spirituel que moi, mais ça m'arrive de chanter un cantique qui, en tant que cantique, est vraiment de l'adoration. Et je le chante, et mes pensées sont complètement ailleurs. J'ai des soucis pour la journée de demain. J'ai des joies de la semaine passée, et je ne sais pas où. J'ai mes propres faiblesses et les faiblesses d'autrui. Il y a tant de sujets qui peuvent nous divertir. Mais, est-ce que je suis alors en train d'adorer en vérité? Non. Le cantique qui sort de ma bouche peut-être à fort volume, c'est un cantique d'adoration. Mais moi, je n'adore pas en vérité. Dieu voit mon fort intérieur et il voit que mes pensées n'y sont pas. Vous connaissez vous-même, Fils du Très-Haut, toi l'admirable, c'est un beau cantique. Mais on peut le chanter ayant les pensées ailleurs. Et ça nous interpelle. Si nous voulons adorer le Père en esprit, en vérité, nous devons comprendre que Dieu veut la vérité dans notre cœur. Il veut que cette vérité vécue dans mon cœur se transforme aussi dans paroles qui sortent de ma bouche. Mais pas qu'il y ait une distinction, un ravin entre mon cœur et ma bouche, ce n'est pas normal. Ce ne serait pas adorer en vérité non plus. Quand on parle du fait que l'adoration doit être en esprit et en vérité, donc en esprit, plusieurs traductions ont minuscule et je crois que c'est correct. Ça veut d'abord dire non pas de la façon matérielle. Pourquoi? Parce que dans Jean 4, la femme samaritaine pose la question, faut-il adorer ici sur le mont Garizim ou bien à Jérusalem? Parce que sur le mont Garizim, les Samaritains avaient construit un joli temple qui faisait la compétition avec celui de Jérusalem, au moins pour eux, pas pour Dieu. Et le Seigneur dit en fait, il tire ses yeux, les yeux de la femme samaritaine, de ces choses visibles sur la terre, des beaux temples et tout ça, vers la réalité de ce que l'adoration désormais doit être en esprit, d'une façon spirituelle. Ça ne veut pas dire seulement conduit par l'esprit. On va venir là-dessus tout à l'heure. Mais ça veut dire d'une façon non pas matérielle ni même physique. Ça veut dire quoi? notre adoration n'est pas améliorée parce qu'on porte tel ou tel habit. Notre adoration n'est pas améliorée parce qu'on a un joli bâtiment. Une fois de plus, les croyants réunis au nom du Seigneur Jésus sous un manguier peuvent même peut-être mieux adorer en esprit, en vérité que nous, avec un beau local. Ce n'est pas le local, ce n'est pas l'apparence extérieure qui fait l'adoration. Ce n'est non plus, comme dans certains milieux, qu'on dit qu'on danse en esprit, on tombe par l'esprit, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de la façon physique, matérielle, l'adoration du Père. Mais c'est d'une façon spirituelle, venant du cœur, et effectivement, comme le deuxième point, opéré par l'Esprit de Dieu. Oh, l'apôtre Paul, en Philippiens 3, met un contraste entre la religion juive, le culte juif devenu la religion juive, et nous. Et il dit que nous qui servons Dieu par l'Esprit de Dieu, en contraste avec le peuple d'Israël sous la loi. Et nous voyons donc que l'adoration du Père et de Dieu, comme le verset 24 de Jean 4 nous le dit, doit être en esprit, d'une façon spirituelle et non pas matérielle. C'est pour cela que j'ai déjà dit, je crois samedi, que les instruments de musique, même si à la maison nous aimons, soit la guitare ou le piano, à la réunion d'adoration ou à l'assemblée plutôt, ça distrait. Ce n'est pas la façon spirituelle. Être conduit par l'Esprit de Dieu pendant la réunion, comme en dehors de la réunion, on va venir là-dessus tout à l'heure. L'adoration en vérité, c'est-à-dire selon la vérité de la parole, mais aussi avec la véracité du cœur qui s'exprime par la bouche. Puisse le Seigneur nous aider à ce que ce soit la réalité. L'adoration est le service le plus élevé que nous ne pouvons rendre. C'est aussi le seul service chrétien que nous rendrons encore en éternité. Le témoignage, l'évangélisation, les soins pastoraux, le service dans la parole, tout ça prendra fin. Mais rendre gloire à Dieu, ce sera notre tâche pour toute éternité. C'est pour cela que c'est si élevé. C'est la tâche de la sacrificature sainte. Une sacrificature royale est mentionnée en 1 Pierre 2, verset 9, qui parle du fait que nous proclamons les vertus de celui qui nous a tirés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais nous sommes d'abord une sacrificature sainte dans ce chapitre. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi dis-je que ce service est le plus élevé? Je répète encore. Est-ce que le Père cherche de l'adoration? La Bible ne le dit pas. S'il cherchait de l'adoration, on peut chanter un cantique d'adoration et on a fait son devoir. Mais il ne cherche pas de l'adoration, il te cherche. Il cherche des adorateurs, il te cherche comme adorateur. Dire une prière, dire un cantique, voire chanter un cantique d'adoration n'est pas difficile. Mais être un adorateur, ça veut dire avoir vraiment le cœur rempli de la grandeur. Et le cœur déborde et s'exprime, que ce soit en silence. Parce que ça, tu trouves à la fin d'Apocalypse 5. Les anciens adorèrent, se prosternèrent et adorèrent. Et c'est point. Et je crois que nous tous, on connaît. Si c'est bon, tant à la maison qu'en assemblée, qu'il y a des moments où on est tellement impressionné qu'on ne trouve même pas les paroles. Et pourtant, Dieu, le Père, s'en réjouit. C'est pour cela que je vous conseille aussi, je ne connais pas l'habitude ici, mais que généralement nos cultes, ce n'est pas les réunions pour avoir de longues pauses, mais ce n'est pas non plus des réunions TGV où on ne peut même pas avoir un moment d'arrêt pour réfléchir sur ce qu'on vient de chanter, ce qu'on vient de lire sur la prière qui vient d'être exprimée, ainsi de suite. Il y a des besoins de certains moments de réfléchir. Et il nous cherche comme adorateurs 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il ne cherche te cherche pas pour que tu sois adorateur dimanche matin de 10h à 11h. C'est une tâche à plein temps. C'est pourquoi nous sommes tous serviteurs à plein temps. Si c'est bon. Des raisons pour lesquelles l'adoration est si importante. La simple raison, c'est que le Père dit, qu'il a dit que le Père cherche des adorateurs. Deuxièmement, le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Fils. Jean 16, verset 14. Troisièmement, acte 20, verset 35 nous dit, « Il est plus heureux, plus béni de donner que de recevoir. Pourquoi alors être égoïste et égocentré en ne pas rendant l'adoration dont Dieu le Père est digne ?» Il est plus heureux de donner que de recevoir. J'ai vécu, il y a dans le passé avec des jeunes, quand moi-même j'étais jeune, et ils ont dit, ils partent de l'assemblée parce que, comme on le dit, ils partent de l'assemblée, c'est même déjà une fausse expression, mais bon, ils partent parce que, toujours le culte, ils ne reçoivent rien. C'est absolument impossible si on est spirituel. Pour la simple raison que si je suis en train d'adorer le Père, il ne me laisse jamais rentrer à vide. Si à la fin du culte, je suis vide, c'est que j'ai peut-être eu mes yeux focusés sur les frères, la longueur de la prière, même si je la combats, ça ne devrait pas nous frustrer, ainsi de suite. Et les yeux sont sur les frères, et on s'en va parce qu'on ne reçoit rien. Mais je suis convaincu que si nous donnons la louange et l'adoration, nous sortirons du salon ou de la pièce ou du local richement bénis nous-mêmes, alors que ce n'est pas le but pour lequel on est venu. Je veux encore donner quelques petits encouragements. À partir de quel âge quelqu'un peut-il proposer un cantique? C'est une question. C'est à vous de répondre. Généralement, ces questions ne sont pas des pièges. Donc, vous pouvez simplement répondre. Hein? Et je ne mords pas.
À mon avis, il n'y a pas d'âge limite.
Merci. Et c'est aussi bon qu'un frère âgé le dise comme ça. Jeune frère, tu l'as entendu, hein? D'accord. Donc, il n'y a pas d'âge biologique, il n'y a pas non plus un certain nombre d'années qu'il faut absolument être à la table du Seigneur avant de pouvoir commencer à proposer un cantique. Quel est l'âge minimum pour prier à haute voix? Pareil. D'accord. Rappelez-vous ça aussi la semaine prochaine. Quel est l'âge minimum pour édifier l'Assemblée? Il n'y a pas de prescription. Est-ce que cela veut dire que le dimanche matin, tous les jeunes de 20 ans doivent courir vers le micro? Non, ce n'est pas ça. Il y a toujours la dépendance, il y a aussi une utilité à d'abord bien comprendre la parole avant de la partager. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre avant de pouvoir partager un petit peu. Donc, l'apôtre Paul a dit qu'il pourrait parler des dizaines de milliers de mots en langue, de paroles en langue. Mais il préfère dire 5 paroles par l'esprit. Eh bien, vas-y. 5 paroles. Le Seigneur est mon berger. C'est 5 paroles. Je ne dis pas que tu dois te lever pour dire ça, mais juste pour dire que ça peut être très bref. Est très rafraîchissant pour l'Assemblée. Donc, il faut aussi comprendre que tu n'as pas le droit de considérer les réunions, même les sœurs également, les réunions comme une sorte de match de foot où tu es assis sur la tribune au stade pour voir comment les autres s'en sortent. Je me rappelle que j'avais un cousin dans le rassemblement où j'ai grandi. Il critiquait que c'était toujours les mêmes frères qui parlent. Or, il était depuis 10 ans en communion, moi pas encore. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ces frères te donnent au moins 5 à 10 minutes parfois, parce qu'il y a parfois, à cette époque, assez de pause, de silence. Non, ce n'est pas ma tâche. Alors, ferme ta bouche. Si tu ne veux pas ouvrir la bouche pour édifier l'assemblée, n'ouvre non plus ta bouche pour critiquer. Ce n'est pas un match de foot où tu regardes les autres comment ils s'en sortent. Tu es impliqué. Et même les sœurs sont impliquées. Parce que si vous priez, ça va beaucoup mieux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup de rassemblements qui fonctionnent grâce au zèle, au dévouement et à la prière persévérante des sœurs. Et grâce aussi à ce fait que, selon Tite 2, des sœurs aînées encouragent les sœurs qui sont plus jeunes dans la foi. Les encouragent quant à leur, par exemple, à leur vie de famille, quand c'est des jeunes mariés. C'est des tâches importantes pour la bonne marche de la vie d'assemblée. Ne soyez pas focussés sur les réunions. Il y a 7 jours par semaine où chacun de nous peut faire la tâche, la responsabilité que le Seigneur donne à chacun de nous. C'est des tâches différentes, peut-être des positions différentes en public. Mais chaque chose est utile à sa place. Et les frères qui servent dans la parole ne sont pas plus importants que les autres frères ou que les sœurs. C'est juste une tâche mineure, on peut dire, dans un sens. Parce que pourquoi est-ce que le service dans la parole se fait? C'est pour que nous tous, nous soyons stimulés à mieux, plus aimer le Seigneur et à mieux l'adorer. Et ce n'est pas pour rien qu'on peut être reconnaissant que lorsque la maison fut remplie de l'odeur, du parfum, c'était par une femme, en Jean 12. Et ainsi, les sœurs peuvent prendre soin, si je l'applique, que la maison de Dieu, et ce n'est pas le local, soit remplie de la bonne odeur de la personne et de l'œuvre de Christ. Chacun a sa place. Occupons cette place dans la pratique. Encourageons-nous. Je sais que la première fois, nous avions à l'époque un frère très dur, qui était âgé, qui devait répéter les numéros, les cantiques proposés. Moi, voix tremblante, jeune homme, je propose un cantique. Il se tourne pour dire que quel numéro a été proposé? Alors, vous savez que la deuxième fois que j'avais encore un cantique à cœur, mais j'ai attendu 2 minutes de plus. Hein. Mais nous pouvons aussi faire autrement, c'est-à-dire que si un frère qui, jeune ou âgé, qui jusque-là a fait peu et qui propose un cantique, qui lit un verset, qui donne un petit encouragement, l'a fait après la réunion, on peut dire que ça m'a touché. Récemment, j'avais un cantique. Dans mon cœur, j'ai trop hésité. J'ai fermé le recueil. Un jeune frère, juste depuis quelques temps, il a pris sa place à la table, 20 ans. Il propose le cantique. C'est bon et c'est beau. Mais ce qui est aussi encourageant pour un tel, c'est justement si on est déjà un peu plus longtemps en communion, d'entendre que ça m'a fait du bien. Moi, j'hésitais et le Seigneur t'a utilisé. Ça encourage. Il ne faut pas être hyper spirituel et dire que si c'est le Saint-Esprit qu'il lui a montré, il ne faut pas dire parce que autrement ça devient des flatteries. Ça, c'est pas de la flatterie. Ça, c'est les encouragements. Si ça devient avec du miel pour emballer quelqu'un, ça devient autre chose. Mais s'encourager sur le chemin de la foi et dans le service est une bonne chose. Et c'est à encourager. Bon, j'aimerais m'arrêter là et puis encore parler brièvement, moi et ensuite vous, du sujet de la direction par le Saint-Esprit. Parce qu'on a déjà eu à voir que la direction par le Saint-Esprit est un point capital quand on est réunis au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que vous puissiez noter cette question-ci. Que veut dire la direction par le Saint-Esprit? Vous avez besoin, si possible, de la noter, autrement vous allez l'oublier tout à l'heure quand vous allez vous mettre au travail. Que veut dire la direction par le Saint-Esprit? Question 1. Mais je crois qu'on peut ensuite faire un A et un B, à savoir A dans la vie personnelle et B, dans la vie d'assemblée. Donc, question 1, que veut dire la direction par le Saint-Esprit? Une A dans la vie personnelle, une B dans la vie d'assemblée. Question 2. Comment la discerner? Donc 2. Comment la discerner? 3. Trouves-tu difficile de la discerner dans la pratique? Trouves-tu difficile de la discerner dans la pratique? Question 2. Comment la discerner? Troisième question. Trouves-tu difficile de la discerner dans la pratique? Et j'aimerais que vous puissiez, chez la question 3, encore ajouter le même A et B, à savoir dans la vie personnelle et dans la vie d'assemblée. Là-dessus, bon, je dois peut-être encore répéter, question 3, trouves-tu difficile de la discerner dans la pratique? A plus B dans la vie personnelle, B dans la vie d'assemblée. Vous allez tout à l'heure travailler là-dessus, vous allez parler. J'aimerais dire que ça, ce n'est pas un examen que vous passez à la fin de ce séminaire ou de ces études pour voir si vous avez eu le diplôme. Donc, je ne vais non plus faire une sorte de discussion ou d'entretien là-dessus en pleine assise à la fin, parce que c'est des choses aussi très personnelles qui ne sont pas à apprécier à haute voix devant tout le monde, mais peut-être dans un cercle restreint de quelques-uns, c'est utile d'en parler. Parce que si on en parle avec franchise, on peut aussi s'entraider, peut-être les frères, les sœurs, les jeunes, les personnes âgées. Parce que je veux insister que la direction dans la vie personnelle et dans la vie d'assemblée concerne les frères comme les sœurs, même si la tâche est différente. Donc, juste pour dire, vous aurez au moins 3 quarts d'heure, peut-être même plus pour cela. Les questions ne sont pas à rapidement répondre pour dire que le frère Erwin veut entendre oui ou non, le frère Erwin ne veut pas entendre oui ou non. Je voudrais surtout que vous puissiez avoir des échanges fructueux, si je peux le dire ainsi, entre vous là-dessus et vous entraider là-dessus. Plus ou moins vers la fin de cette rencontre, il est fort probable que subitement vous allez voir que je ne suis plus là parce que je dois ne pas rater mon avion. Donc, ce n'est pas parce que je suis précipité à quitter d'ici, c'est parce que je suis un peu pressé pour arriver chez moi. Pour la simple raison que nous avons encore, à partir de jeudi, des préparatifs pour une conférence de 3 jours chez nous sur place, et il y a beaucoup à faire avant. Donc, c'est pour cela que je devais prendre l'avion aujourd'hui. Maintenant, on va en arriver à quelque chose de délicat et de pénible, à savoir les instructions pour la formation des groupes. Tout d'abord, les groupes ne peuvent pas être composés de plus de 7 personnes. Et je demande à Rémi et peut-être encore un autre frère d'ici, avant qu'ils ne se joignent à l'un ou l'autre groupe, de veiller au respect des règles qui vont sortir tout à l'heure, pour la simple raison qu'autrement, ça tombe un peu dans l'eau et ce serait dommage. Le but n'est pas de réussir un examen. Le but, c'est tout simplement que ce ne soit pas moi qui parle constamment et que vous puissiez entre vous parler de ces choses, vous entraider. Il faut que les groupes soient nécessairement composés, plus ou moins 50-50, disons, hommes-femmes. Frères et sœurs mélangés, toutes tranches d'âge mélangées. Et encore, toutes les localités mélangées. Au maximum, 2 personnes de la même localité. Est-ce que peut-être Jean-Daniel et Rémi, vous avez retenu les règles? Au maximum, 7 personnes, frères et sœurs mélangés, tranches d'âge mélangées, localités mélangées. Un groupe qui est désobéissant, on va voir ce qu'on va faire avec un tel groupe. Je ne vais pas faire moi-même les groupes, ni Jean-Daniel et Rémi. C'est à votre créativité qu'on donne 2 à 3 minutes. Vous allez vous asseoir un peu partout à travers la salle, pas trop proches les uns des autres. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, je ne veux pas imposer que les couples se séparent. Mais pour cette rencontre, ça peut parfois être très utile de ne pas être ensemble. Ça dépend peut-être de votre lien, lien conjugal. Mais je vois quelques-uns peut-être de jeunes mariés qui auraient de grandes difficultés à ne pas être à côté de lui ou d'elle. Alors pour de tels, on fait exception. Merci.
Puisque tu vas partir avant la fin, j'avais prévu de dire un mot à la fin, donc je le dis maintenant. Je suis sûr que je me fais le porte-parole de chacun de vous pour dire 2 choses. Tout d'abord, un grand merci à Erwin d'avoir accepté de venir à Bordeaux pour nous parler de ce si grand sujet, de ce sujet si important. Et j'espère que nous tous, nous en retirerons beaucoup de profit, et beaucoup de profit à titre individuel, mais aussi dans chacune de nos assemblées. La deuxième chose, c'est de dire un grand merci à tous ceux qui ont permis que ces réunions s'organisent ici. Ça a été certainement difficile. Il y a eu des frères, il y a eu des sœurs, il y a eu des jeunes, il y a eu même des enfants qui ont participé à l'organisation. Et ces différentes réunions se sont faites dans la paix, dans la joie et dans l'ordre. Donc un grand merci, un très grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation.
Vous aurez au moins 45 minutes, peut-être un peu plus. Vous n'allez pas rapidement à travers les questions comme si c'était des questions à répondre dans un test, mais vous allez donc en parler, c'est ça l'utilité. Mais bien sûr, pas échanger les opinions, mais surtout essayer de s'entraider par la parole de Dieu. Courage.